Aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre 11. Vous vous souvenez que les disciples voulaient savoir quand les choses de la fin arriveraient. Et Jésus leur avait dit qu'il ne pouvait pas leur dire, que personne à part le Père le connaissait, savait le temps exactement. Mais il leur disait qu'en fait, ce serait très simple à reconnaître. Parce que ce serait un peu comme les douleurs de l'enfantement. Et je me souviens encore, sans embarrasser ni Tonio ni Nancy, qu'un beau week-end de mai 1982, Nancy m'avait prévenu que les contractions se rapprochaient. Elle m'avait réveillé pour me dire ça. Mais j'avais sorti ma montre et on comptait les intervalles entre les contractions. Puis on essayait de faire la respiration pour détendre Nancy. Je ne crois pas que Tonio se souvienne trop de cette période. Mais une chose est sûre, c'est que quand les douleurs sont devenues très fréquentes et très, très douloureuses, Nancy s'est assurée que je l'ai prise en voiture pour l'emmener à l'hôpital. J'ai pris quand même le temps d'attraper du film que je conservais dans le freezer. Mais tout ça pour dire que si on regarde bien les choses qui se passent autour de nous, les contractions se rapprochent et s'intensifient. Nous allons lire ensemble le chapitre 11. Et si vous vous souvenez, c'est Jean qui parle. Qu'un ange puissant que nous avons compris être Jésus-Christ lui a donné un petit livre à manger. Pour nous, ce petit livre n'est autre que le titre de propriété de la Terre, de la planète Terre. Et c'est Jésus qui vient reprendre possession de la Terre. Et là, je lis verset 1 du chapitre 11. On me donna un roseau semblable à une baguette en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent là. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » On retrouve souvent le thème de l'homme qui mesure dans la Bible. On trouve ça dans Zacharie, dans Ézéchiel, où Dieu demande à Ézéchiel de mesurer le temple dont il a la vision. Et on le verra plus tard aussi à la fin de l'Apocalypse. Qu'est-ce que ça veut dire que mesurer?
What does it mean to measure?
Souvent, lorsque quelqu'un acquiert une propriété,
often when people acquire a piece of property,
ils font venir un géomètre,
they bring a specialist in,
pour en délimiter le contour exact. Quelque part, c'est un signe de possession. C'est aussi une évaluation de la propriété. Il y a une nouvelle loi en France qui fait qu'on doit avoir une mesure certifiée conforme lorsqu'on fait de la publicité pour un appartement à vendre ou à louer. Parce que souvent, les gens trichent un peu. Au lieu de 90 mètres, on dira c'est 100 mètres carrés. Il y a des règles très précises pour éviter justement d'ajouter la superficie de l'encoignure des fenêtres. Mais ce que le Seigneur veut dire par cet homme qui va mesurer le temple de Dieu, il rappelle, je possède cette cité et ce temple m'appartient. Je les réclame pour moi-même. Le temple dont il est question ici désigne en fait seulement le sanctuaire. Vous vous souvenez qu'au départ, Dieu avait donné à Moïse des instructions pour construire le tabernacle dans le désert. Et que le premier élément, c'était le parvis du tabernacle. Et qu'à l'intérieur, il y avait un édifice qui regroupait deux salles. Le lieu saint. Et le lieu très saint. Le saint des saints, pardon, en français. Et ici, il ne s'agit que du lieu saint et du saint des saints. Et l'autel dont il est question est sans doute l'autel des parfums. Nous avons vu que l'encens était la prière des saints qui montent vers Dieu. Où est le temple de Dieu? Où sera le temple de Dieu? On pense toujours à des beaux édifices en pierre. Mais vraiment, nous le verrons à la fin de l'Apocalypse. Et Paul nous le dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et que nous ne sommes pas à nous-mêmes. Et de penser que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui va m'aider à vivre de façon sainte. Je ne vais pas me goinfrer. Non. To stuff myself. Pardon. Parce que je sais que c'est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que je vais me livrer à la débauche avec mon corps si je sais que c'est le temple du Saint-Esprit?
Would I give myself over to immorality if I know that my body
Et Dieu, pour montrer la sainteté de notre corps et de ce lieu saint où il veut habiter, il a utilisé cette image du tabernacle, qui est devenu par la suite le temple de Jérusalem. Mais la destination finale, c'est pour nous faire comprendre que Dieu va habiter en chacun de nous et au milieu de nous tous. Notons bien que il dit à Jean de mesurer aussi les gens qui adorent là. Et qu'en fait, ça, c'est une invitation pour nous aussi à évaluer notre vie spirituelle. Devant Dieu. Trop souvent, nous avons tendance à mesurer notre vie spirituelle par rapport à nos voisins non-croyants. Je crois qu'on arrive en pleine saison d'été. J'ai jamais vu autant de trains à 10 heures. Et tout ça sont des gens, la plupart, qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils viennent à Nice, peut-être parce qu'à Nice, le Seigneur va faire des choses. Mais pour revenir à l'idée du temple et à l'importance d'évaluer notre vie spirituelle devant Dieu et non pas devant nos voisins non-croyants, je vous invite vraiment à le faire, à prendre du temps demain matin, peut-être dans votre temps de prière. Et demandez au Seigneur de ce qu'il veut changer dans votre vie spirituelle. Et là, il va nous parler. Il va nous montrer les choses à changer. Il va aussi nous donner la force de les changer. Combien de temples y a-t-il eu à Jérusalem? On sait que David, après s'être construit un beau palais, il s'est senti un peu coupable de voir que le tabernacle, en fait, c'était du camping. Il a exprimé le désir de construire un temple pour le Seigneur, mais le prophète lui a dit que c'était son fils Salomon qui le construirait. Et donc le temple de Salomon était le premier temple construit à Jérusalem, sur le mont Moria ou Morija, où Abraham avait sacrifié son fils Isaac. En 587 avant Jésus-Christ, ce temple a été détruit par les Babyloniens lorsqu'ils ont pris Jérusalem. Et puis, les Juifs en exil, sous l'impulsion de Néhémie, de Zorobabel, ont eu l'autorisation de revenir reconstruire le temple. Cette fois-ci, on pense que l'arche de l'Alliance n'était plus dans le Saint des Saints. ark,
the ark
of the covenant.
Of the covenant was no longer in the Holy of Holies in that temple.
Et on pense pas que c'est la solution de Steven Spielberg soit la vraie.
And we don't think the solution of Steven Spielberg for finding the ark is the real one.
Le troisième temple, ça a été celui du roi Hérode. Il a en fait continué la construction, il a amélioré le travail de Zorobabel. Et c'est seulement en l'an 62 après Jésus-Christ que le temple a été terminé. Et c'était une des merveilles du monde. C'est de ce temple-là que Jésus parlait lorsqu'il disait dans... Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et cette prophétie s'est réalisée peu de temps après, en l'an 70 de notre ère, lorsque les troupes romaines de Titus ont assiégé la ville. Il y avait beaucoup d'or qui était inséré dans la construction du temple. Et le temple a pris feu. Titus ne voulait pas le détruire, mais il y a eu du feu. Et la chaleur était telle que tout l'or a fondu et coulé au fond entre les interstices. Et les soldats romains, pour récupérer cet or fondu, ont retourné pierre sur pierre, accomplissant la prophétie de Jésus à la lettre. Et depuis, il n'y a plus de temple à Jérusalem. Par contre, sur le même emplacement, on trouve maintenant le dôme du rocher, une mosquée islamique construite en l'an 691. Et lorsqu'on voit les photos de Jérusalem maintenant, vous avez tous vu cette coupole dorée. C'est un peu la tour Eiffel de Jérusalem, c'est le point de repère. Et c'est justement le dôme du rocher qui recouvre un gros rocher qui serait précisément le rocher où Abraham aurait sacrifié Isaac. Mais les Juifs qui sont revenus maintenant à Jérusalem parmi eux les plus orthodoxes n'ont de cesse que d'avoir reconstruit un temple à Jérusalem. La bonne nouvelle peut-être pour eux, c'est que dans les années 80, un ingénieur israélien qui s'appelle Asher Kaufman a fait des recherches très, très détaillées pour retrouver l'emplacement historique du temple de Salomon. Et il pense que l'emplacement n'est pas sous la mosquée du dôme du rocher, mais plus au nord, dans un emplacement vide, où se trouve simplement un petit monument qui s'appelle le dôme des esprits,
mm-hmm.
Et donc ça permettrait peut-être de reconstruire le temple sans déclencher une troisième guerre mondiale. Et il y a eu des articles déjà dans les magazines. Il y a un très bon livre disponible en librairie chrétienne sur la reconstruction du temple. Mais il y a des groupes très actifs qui ont récolté des fonds financiers, qui ont dressé des plans, qui ont créé des écoles de formation pour les jeunes gens pour qu'ils deviennent prêtres. Ils ont acheté des forêts au Liban pour avoir du bois de cèdre de première qualité. Il y a des recherches génétiques pour avoir des vaches, des génisses rousses, aussi sans tache, sans problème, sans défaut. Tous les instruments nécessaires au culte ont été refaits, refabriqués. Les vêtements des prêtres et des grands prêtres sont prêts. J'ai jamais eu encore la joie d'aller à Jérusalem, en Israël, mais peut-être ceux qui y sont allés, on peut voir certains de ces endroits. Mais il faut réaliser qu'on arrive vraiment dans la période de la fin des temps. Pendant près de 2000 ans, les Juifs ont été dispersés sur toute la surface de la Terre. Et ce n'est pas avant 1948 que l'État d'Israël a été reconstitué. Et ce n'est pas avant 1967, la guerre des six jours, que Jérusalem a été maintenant sous le contrôle de l'État d'Israël. On voit donc que les contractions se rapprochent. Pendant 2000 ans, il n'y a pas eu grand-chose. Et là, il y a des gens qui sont prêts avec les camions de béton à commencer le temple. Pour comprendre le passage, encore une fois, il faut revenir à la prophétie de Daniel. La prophétie de Daniel, chapitre 9. Lisons-la ensemble, chapitre 9, versets 24 à 27. C'est page 886 dans la Bible à la colombe. Je lis donc. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les crimes et mettre fin au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie et pour oindre le Saint des Saints. Prends donc connaissance et comprends. Depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis et reconstruits. Mais en des temps d'angoisse, après les 62 semaines, un Messie sera retranché et il n'y aura personne pour lui. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur ira à l'extrême des abominations, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Nous avons déjà parlé de cette prophétie. Si vous voulez avoir plus de détails, nous pouvons vous passer les cassettes. Nous avons expliqué que les semaines sont en fait des périodes de 7 ans. Et qu'une partie de la prophétie a déjà été réalisée. Entre le temps où Néhémie a reçu la permission, le décret permettant la reconstruction de Jérusalem, et le temps où Jésus est entré dans Jérusalem, en criant, avec les foules qui criaient « Hosanna au plus haut des cieux, béni est celui qui vient au nom du Seigneur », il s'est passé 69 fois 7 ans, 483 ans. Au jour près. La prophétie s'est complètement accomplie pour Jésus. Et puis ce Messie a été retranché, c'est verset 26.
And then in verse 26 it tells us that the Messiah was cut off.
Et puis les questions d'un peuple qui détruit le sanctuaire. Ça a été réalisé une première fois en l'an 70.
And that was first fulfilled in the year 70.
Nous avons expliqué aussi que l'Empire romain sera restauré.
And we also explained that the Roman Empire would be restored.
Revived.
Revived.
Et on pense justement que la communauté européenne est le début de cet Empire romain qui est restauré. Dans Daniel et dans l'Apocalypse, on voit que de cet empire romain restauré va sortir un prince.
And in Daniel and in Revelation we see that out of this revived Roman Empire a prince will arise.
Un homme qui aura un charisme extraordinaire.
A man with incredible charisma.
Qui semblera en mesure de régler les problèmes pressants du monde.
Who will seem capable of resolving the pressing problems in the world at that time.
Il est dit justement qu'il fera une alliance d'une semaine. Nous avons dit que là, il est question de 70 semaines. Que pour l'instant, 69 semaines se sont réalisées. Cette prophétie est destinée au peuple de Daniel, au peuple juif.
Et c'est
comme si le Seigneur avait stoppé le chrono de la prophétie. Et maintenant, c'est le temps de l'Église. Dieu a donné à l'Église une mission. Mais il va enlever son Église avant la période de la grande tribulation. Et aussitôt, il va redéclencher le chrono pour la dernière semaine, la dernière période de 7 ans. Et il est question de cette semaine, là, au verset 27. Il va faire une solide alliance d'une semaine, donc de 7 ans, avec Israël. Mais durant la dernière partie, la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande.
Week, years, grain offering.
Offering.
Ah, just the offering.
Et donc, ça nous montre, encore une fois, que le temple devra être reconstruit pour qu'il puisse faire cesser les sacrifices et les offrandes. Et là, il est dit qu'il ira jusqu'à l'extrême des abominations. Jésus parlait dans Matthieu 24 de l'abomination de la désolation. Il disait au verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez, de Matthieu 24, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention. Et l'abomination de la désolation, Paul nous explique dans 2 Thessaloniciens 2, 3 et 4, qu'est-ce que c'est, ce que c'est. Page 234 à la fin de la Bible à la Colombe. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie. Cet homme charismatique qui apportera, il semble, la paix au monde, va être possédé par Satan lui-même et sera ce que la Bible parle en d'autres endroits de l'Antichrist. Et vous souvenez que le but de Satan, ça a été toujours de voler l'adoration qui revient à Dieu. Et là, Satan va essayer de se faire adorer par l'intermédiaire de cet homme dans le temple même de Jérusalem. Et ça, c'est l'abomination de la désolation. Nous parlerons davantage de l'Antéchrist dans les chapitres à venir. Il est question de la ville sainte. La ville sainte, bien sûr, c'est Jérusalem. Et verset 2, nous avons vu que la ville sainte sera foulée aux pieds pendant 42 mois. Ce sera les dernières périodes de la semaine. Jésus parlait de ça dans Luc 21-24 aussi. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, par les païens, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Passons au verset 3. J'accorderai à mes deux témoins le don de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont là deux oliviers et les deux chanteliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre.
And the two lampstands that stand before the Lord of the earth,
Il est question de deux témoins qui vont prophétiser pendant 1260 jours. Qu'est-ce que ça fait, 1260 jours pour les mathématiciens? Ça fait 42 mois à 30 jours. 3 ans et demi. Ce sera la seconde moitié de la période de 7 ans. Ce sera en fait, pardon, je veux dire, la première partie de la période de 7 ans où ces témoins vont témoigner de la puissance de Dieu et du besoin de se repentir devant lui. Il est question de deux oliviers et deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Les prêtres du temple devaient s'occuper de faire brûler en permanence les chandeliers. Il y avait un chandelier à 7 branches dans le lieu saint. Il fallait s'assurer qu'il y avait toujours assez d'huile. Il fallait régler les mèches, couper ce qui était brûlé, les faire sortir, les ajuster. Donc beaucoup de travail répétitif. Et dans Zacharie 4, on voit la solution à ce problème de maintenance, quelque part. Dans Zacharie 4, on voit la solution à ce problème de maintenance. We see a solution to that problem of maintaining the candlesticks trimmed and burning. Où il y a deux oliviers qui sont connectés au chandelier par un tube. Et l'huile coule directement des oliviers vers les chandeliers. Et dans le contexte, on voit qu'il s'agit des deux témoins de Josué, qui était le souverain sacrificateur, et Zorobabel, le gouverneur, qui avait permis la reconstruction du temple. Et l'huile, c'est toujours un symbole de l'onction puissante du Saint-Esprit. Et vous avez déjà sans doute entendu parler d'une partie de Zacharie 4. Lorsque Zorobabel était revenu à Jérusalem, il y avait un champ de destruction, ces pierres qui étaient retournées sur elles-mêmes, sans dessus dessous. C'est pas... Et ils ne savaient même pas par où commencer. Ils auraient pu travailler toute la journée pour essayer de repérer les pierres. C'est comme si rien n'avait été fait à la fin de la journée. Et au verset 4, la parole de l'Éternel est adressée à Zorobabel. Et lui dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Il continue en disant, qui es-tu, grande montagne, cette montagne de pierre détruite? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il en sortira la pierre principale au milieu des acclamations. Prophétie de Jésus-Christ, bien sûr. Et c'est plus loin qu'il y a ces deux oliviers et il le fait remarquer que ce sont les deux oints du Seigneur, Zorobabel et Josué.
refer to these two olive trees and tells us that they are representative of Joshua and Zerubbabel.
Mais ce verset, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit.
But this verse talking about not by might nor by power, but by my spirit.
C'est un grand principe que Dieu nous donne.
It's a great principle that God gives to us.
Quel que soit le travail qu'on veut faire pour le Seigneur,
whatever the work is that we want to do for the Lord,
c'est pas par la puissance,
it's not through power,
c'est pas par la force,
it's not by strength,
c'est par l'Esprit du Seigneur.
It's by the Spirit of the Lord.
Jésus a dit la même chose lorsque dans Jean 15 il disait « Sans moi vous ne pouvez rien faire ». Il disait, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Il disait même, je suis le cep ou je suis la branche, je suis la vigne.
I am the branch or the vine.
Et vous, vous êtes les branches.
I am
the vine, you are the branches.
I am the vine and you are the branches.
Celui qui demeure en moi,
and he who abides in me,
comme moi en lui,
as I am him,
porte beaucoup de fruits.
Will bear much fruit,
car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est quelque chose de fondamental dans la vie du chrétien. Nous devons avoir cette connexion vitale avec le Seigneur. On peut faire beaucoup de choses, entre guillemets, pour le Seigneur, par les armes humaines. On peut faire de la publicité à grande échelle. Faire la publicité pour une église. On peut rassembler des fonds pour faire de beaux bâtiments. Il y en a qui ont construit des cathédrales en cristal. On peut utiliser toutes ces armes, mais les armes charnelles ne peuvent rien pour le travail spirituel. Si vous voulez être utile au Seigneur, c'est seulement en assurant cette intimité avec lui que vous pouvez espérer le voir agir. Qui sont ces témoins? On a parlé de Zorobabel et Josué. Mais ça, c'était à l'époque de la reconstruction du temple par Zorobabel. Il est dit au verset 5 que si quelqu'un veut leur nuire, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le veulent. Comme toujours dans l'Apocalypse, il y a des commentateurs qui diffèrent dans leurs interprétations. Et encore une fois, je crois que plus on se réfère à tout ce qui précède, et plus on a des chances de tomber juste. Il y a deux grandes options. La première, c'est de dire qu'il s'agit d'Enoch et d'Élie. Pourquoi? Parce que vous souvenez qu'il est donné à chaque homme de mourir une seule fois et après vient le jugement. Et il y a deux hommes dans l'Ancien Testament qui ne sont pas morts, qui ont été enlevés par le Seigneur. Enoch, qui marche avec le Seigneur, et le Seigneur lui a dit, viens avec moi. Et puis Élie qui a été emmené dans les cieux aussi. Donc le raisonnement, c'est de dire, il y en a deux qui ne sont pas morts, il faut qu'ils reviennent, et là, ils vont mourir. Mais la faille de cette approche, à mon avis, c'est qu'avec l'enlèvement d'église, il va y avoir plein d'hommes et de femmes qui vont ne pas mourir. Mais si on voit ce qu'ils font, changer l'eau en sang, la terre frappée de plaies, le ciel fermé, le feu dévorant les ennemis de Dieu. Est-ce que ça rappelle quelqu'un, ça? Bien sûr, d'abord Moïse. Lui qui avait frappé l'eau du Nil et l'eau s'était changée en sang. Lui qui faisait tomber à la demande du Seigneur des plaies, c'est-à-dire des cataclysmes, des catastrophes naturelles sur la terre, ou surnaturelles sur la terre d'Égypte. Et puis l'autre, quelqu'un qui a fermé les cieux. Souvenez dans Jacques. Faisons allusion à des passages dans 1 Roi 17 et 18. Jacques disait, Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. On retrouve cette période de 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Un autre passage qui nous parle aussi du feu qui tombait sur les adversaires de Dieu. C'est dans le premier chapitre de 2 Rois, où on avait envoyé des soldats pour capturer Élie. Ils voulaient le ramener auprès du roi, et Élie disait, si je suis un homme de Dieu, alors que le feu descende du ciel et te dévore. 1:10. Le roi Ahazia envoie encore un autre chef avec 50 hommes. Il dit la même chose, si je suis un homme de Dieu, que le feu te consume. Finalement, il y en a un troisième qui est envoyé. Tremblant. Peut-être ce que les gendarmes de la paillote ressentiraient maintenant. Et il dit, je t'en prie, je t'en supplie, viens avec moi, sinon ça va mal se passer pour moi. Et là, Élie les suit. Donc on peut penser à Moïse et Élie. Mais je vois qu'il y en a aussi qui pensent à un autre passage qui associe Moïse et Élie et Jésus-Christ. Voilà le passage de la transfiguration, le moment de la transfiguration. Où Jésus était apparu à ses 3 plus proches disciples, resplendissant dans sa gloire. Et conversant avec Élie et Moïse. Et c'est à cette occasion que Pierre, toujours prêt à mettre l'épée dans le plat, on va dire, oh, c'est chouette, c'est formidable, on va construire 3 tabernacles. Un pour Moïse, un pour Élie, un pour Jésus. Et là, une voix du ciel s'était faite entendre, le Père qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci mérite l'adoration. Et donc, je pense personnellement que ces deux témoins seront Moïse et Élie. Et ce seraient des témoins puissants pour le peuple juif. Mais ils seront des témoins pour le monde entier. Et verset 7 nous dit que quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et ça nous montre que Dieu va s'assurer que leur témoignage est terminé. Et ça nous rappelle que tant que notre tâche n'est pas terminée, Dieu nous soutient. On peut des fois s'inquiéter de la vie, de nos ressources. Mais Dieu a préparé de toute éternité des œuvres pour nous. Nous ne savons pas ce qu'elles sont, lui seul le sait. Mais quand notre moment est venu, nous pouvons partir tranquille. Il y a des fois des gens qui sont martyrisés, on dit c'est quel dommage, quel gâchis. Comme le missionnaire Jim Elliot qui avait été massacré par les Indiens Oka en Amérique du Sud. Mais à travers ce martyr, Dieu a pu faire une grande œuvre dans cette région. La bête, on va voir que c'est l'esprit de l'Antichrist qui monte de l'abîme, leur fait la guerre. Et ils meurent. Et leurs cadavres restent sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où le Seigneur a été crucifié. Il s'agit bien sûr de Jérusalem. Et verset 9, des hommes d'entre eux, les peuples, les tribus, les langues, les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Ils ne permettront pas qu'on mette leurs cadavres dans une tombe. Et là encore, on voit le temps approche, le temps de la fin approche. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore 50 ans, on n'aurait pas pu imaginer que les hommes de toute la terre, toutes les nations, voient quelque chose en direct. Ce qui est intéressant, c'est que le standard, la norme, c'est ce que dit la parole. Pas ce que nous imaginons, ce que nous pensons. Et il y a 50 ans ou il y a 100 ans, les commentateurs partaient dans toutes les directions. Alors ils mélangeaient tout. En fait, les deux témoins, c'était l'Église ou c'était l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il y a un commentateur en 1920 qui lui essayait pas d'interpréter la Bible en fonction de ce qu'il connaissait. Mais il essayait de voir ce que disait la Bible et d'imaginer ce que pourrait être la réalité. Et donc il disait que sans doute, à ce moment-là, il y aurait une machine qui permettrait aux hommes de voir une situation dans un endroit partout ailleurs. C'est lui qui avait raison, parce qu'il faisait confiance à la parole. Maintenant, nous avons la télévision par satellite. Depuis quelques années, nous avons Internet. Il est tout à fait plausible de ce que tous les habitants de la Terre voient le cadavre des deux témoins. Et on voit que la Terre entière les abhorre, les rejette. Parce qu'il parle de repentance, il parle de Dieu. Il leur refuse une sépulture. Peut-être craignant que le miracle de la résurrection de Jésus ne se reproduise dans une tombe. Ils sont tellement heureux que enfin ces voies de justice, de sainteté se soient tues. Le verset 10 nous dit que les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Ces gens, ces gens envoyés de Dieu qui veulent annoncer la repentance, le besoin de repentance et la sainteté de Dieu, le monde les hait. Et Jésus nous disait, le monde vous haïra si vous m'appartenez. Et le résultat, c'est qu'ils instituent une espèce de Noël satanique. On s'offre des cadeaux comme pour Noël. Et ça nous donne une image de la dureté, de la rébellion des hommes sans Dieu. Mais Dieu va utiliser la télévision et Internet. Verset 11, après les trois jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Une grande crainte fondit sur ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix forte leur dire « Montez ici ». Ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. Donc les caméras seront braquées sur ces cadavres. Et imaginez PPDA. En train de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et devant le monde non-croyant, on entendra la voix qui dit, montez ici. Ils seront ressuscités devant le monde entier. Il suivra un jugement de Dieu sur Jérusalem, versets 13 et 14. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la dixième partie de la ville s'écroula. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici que le troisième vient bientôt. Ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est que bien sûr il y a un tremblement de terre qui tue 7000 personnes. Et les gens donnent gloire à Dieu. Contraints et forcés. Et c'est le destiné de chaque homme qui rejette Dieu. Un jour, il reconnaîtra la puissance de Dieu et la sainteté de Dieu. Mais pourquoi attendre pour le reconnaître? Dieu a tout fait pour que nous le reconnaissions comme étant notre Dieu, que Jésus est notre Sauveur, notre Seigneur, maintenant. Les hommes glorifieront Dieu en reconnaissant qu'il est tout puissant, ça ne veut pas dire qu'ils seront sauvés. Aujourd'hui est le moment du salut. Terminerons ce passage la prochaine fois. Et nous voyons que Dieu n'est jamais sans témoin. Il nous appelle à être ses témoins. Comme aux deux témoins, il nous donne des dons. Il nous donne la puissance de l'Esprit-Saint. Et tant que nous n'avons pas terminé notre tâche, il nous garde ici-bas. Prenons donc courage. Servons-le de tout notre cœur. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci que nous pouvons fonder notre vie sur elle. Seigneur, même si nous ne pouvons pas être sûrs de tous les aspects de la prophétie, tu nous donnes assez d'éléments, Seigneur, pour te faire confiance. Et toute ta parole nous est donnée, Seigneur, pour nous révéler les choses dont nous avons besoin. Seigneur, encore une fois, ne permets pas à l'ennemi de nous détourner de l'obéissance par la curiosité. By curiosity. Merci Seigneur de cet exemple, de ces deux témoins qui persévèrent. Et merci aussi Seigneur de nous rappeler que le temps n'est plus très loin. Les contractions se rapprochent Seigneur. Aide-nous à être prêts. Par le nom de Jésus, notre Seigneur, nous prions. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dans deux semaines, nous aurons...